Merci Dominique, merci aux amis du banquet. Je vais commencer donc par vous présenter Alfred Bénézé très rapidement. Et c'est par Alfred et le carnet que nous allons faire une balade littéraire aujourd'hui. Alors si vous avez besoin de rire, riez maintenant parce que je ne vais pas vous emmener dans des territoires très drôles. Et on va essayer au travers de ces écrits de voir tout le déroulement de la guerre. Alfred Bénézé est né en novembre 1889 à Mudaison dans le Hérault. Et c'est à Mudaison qu'il décède en février 1985 à l'âge de 96 ans. Il a fait son service militaire, 3 ans à l'époque, à Marseille. Il a été touché par la typhoïde, il est mourant. L'armée appelle même ses parents qui se déplacent à Marseille pour peut-être le voir une dernière fois. Il en réchappe, rentre à Mudaison pour sa convalescence. À peine remis, il est réquisitionné et il sera mobilisé d'août 1914 à juillet 1919 dans le 141e régiment d'infanterie. Il a fait donc pendant toute la guerre et un petit peu plus, puisque après l'armistice, on est encore allé surveiller l'Allemagne, etc. Donc voilà un petit peu comment les choses se sont déroulées. La Grasse, 1er novembre 2014. Alfred Bénézé a 25 ans quand il quitte son village de Mudaison, près de Montpellier, pour être mobilisé le 3 août 14 au 141e régiment d'infanterie. Soldat puis brancardier, il va de la Meuse à la Marne, de Verdun à Nieuport ou Bicône en Belgique. D'août 14 à juillet 19, il tient son carnet de guerre. Alfred est de ces taiseux qui se disent parfois de ceux dont il faut écouter les silences. Puis il y a les autres, les Barbus, Genevois, Giono, Sandrard, ceux dont c'est le métier d'écrire, ceux qui savent poser les mots, là où leurs compagnons d'infortune scellent leurs lèvres, retiennent leurs doigts. Mais que dire de toutes ces pages, lettres, témoignages, articles, carnets, écrits par nos poilus et qui nous submergent. Et nous le voyons en ces temps de commémoration, nous qui sommes nombreux à avoir quelque part, dans le fond d'une armoire, un éclat de papier entre 14 et 18, que dire ? Parce que si je prends l'exemple du carnet d'Alfred, si j'en enlève ce que j'appellerais l'histoire sentimentale de ma famille, que reste-t-il ? Peut-être quelques pages pour un historien façon boucheron mais non médiéviste, qui irait traquer dans les écrits des humbles ce qu'il faut de matière pour établir l'histoire de 1914 à 1918, écrite par ceux habituellement autorisés à écrire la victoire. Nous avons aussi un problème avec le silence, le non-dit, moi le premier, puisque face au silence d'Alfred, j'ai cru bon préciser sa parole par celle des autres. Et puis nous tous ici, nous aimons l'éloquence, le verbe, la phrase bien dite, bien écrite. Un écrivain disait, on va dire Modiano, puisqu'il est à la mode en ce moment, « J'écris parce que je ne sais pas dire. » Peut-être bien Modiano. Mais ne sait-il pas dire ou ne savons-nous ne plus écouter ? À la limite, si l'on s'accorde à dire qu'un écrivain sait écrire, peu importe, puisque celui-ci, justement, sait écrire. Ce n'est pas forcément le cas de certains de nos poilus qui ont écrit des carnets. En guise de préambule, également, je voudrais m'arrêter un petit peu sur des retours que des lecteurs amis m'ont gentiment fait sur le carnet d'Alfred. Certains s'interrogeant sur ses froides lignes, parfois. Un exemple. Il prend le train pour sa permission, et voici. 27. Aller chercher ma permission à Auchy, 28 octobre, à 7h30, départ pour aller en permission, chevet court, départ 10h30, Beauvais, départ 11h30, Saint-Just, arrivé 14h30, départ 19h, etc. Un indicateur du chemin de fer à lui tout seul. Au-delà d'autres pages d'Alfred qui sont d'une autre teneur, il est vrai que si on enlève la trace du genre histoire du rail, du temps où il n'y avait pas encore le TGV, on peut s'interroger sur ces lignes où il ne dit rien. De ce que disent, de ce qu'elles ne disent pas, comme on peut s'interroger sur les dizaines d'années de silence d'Alfred et de tant d'autres. Alfred ne parlait jamais de la guerre, et nombreux sont ceux qui n'en disent rien à leur retour. En 1929, John Horton Crewe analyse les témoignages, livres et autres de ceux qui écrivent en précisant qui écrit et d'où celui-ci écrit. Car ni la guerre ni l'écriture ne sont les mêmes selon qu'on est officier ou simple soldat, français ou allemand, au front ou à l'arrière. Que dire des écrivains, de leur indispensable témoignage, de leur façon particulière de dire la guerre, sans omettre pour autant cette tentation toujours présente de la phrase percutante ou magnifique. Que dire de celui de celui-ci qui a fait le choix de ne pas écrire, mais de juxtaposer au carnet d'Alfred ces fragments d'écrits des uns et des autres, choix subjectif bien sûr, qui d'une certaine façon lui ressemble comme autant de gouttes d'eau qu'il faut à la pluie pour dire qu'il fait mauvais. Les voix des autres nous disent. Que dire de nous tous, qui avons si peu questionné nos anciens sur cette guerre, comme sur d'autres? Que dire de nos silences à nous aussi? Combien d'entre nous ont questionné leur père ou leur grand-père? Cela vaut pour cette guerre de 14 et pour 39-45. Cela vaut hélas pour d'autres guerres. Dis papa, t'as fait quoi pendant la guerre? Cela vaut pour des combats quotidiens qu'il faudrait mener. Dis papa, t'as fait quoi contre le front national, l'affront international? Passe-moi la bouteille de lait, tu bois du café maintenant. La grâce, 1er novembre 2014. C'est souvent ainsi. Nous parlons peu. Je ne sais rien de mon grand-père italien, de son départ d'Italie. La misère ou le fascisme, les deux peut-être. Pas plus de mon oncle et de la guerre d'Algérie. Pas plus qu'une amie juive n'arrive à savoir ce que vécurent ses parents entre 39 et 45. Alors, un carnet, ce n'est pas grand-chose un carnet de guerre. Mais c'est toujours ça de prix à un autre ennemi, le silence. J'ai voulu, par ces carnets de guerre et cette promenade sur un champ de carnage que je vous propose aujourd'hui, apporter comme un complément d'objet aux phrases et au silence. J'avais un squelette, le carnet d'Alfred. J'ai posé de la chair autour pour dire que les hommes et la littérature ont des choses à dire. 14 août 1914. Alfred écrit dans son carnet. Départ à 4h matin. Traversons Drouville, passons le village de Parois à midi et faisons halte dans un bas-fond où nous passons 2 heures et mangeons la soupe. Pendant notre repas, le canon se met à gronder. Le signal de départ est donné, tout le monde est sur pied et nous voilà en route pour l'inconnu. La marche est pénible, nous sommes tous fatigués. Pourtant, il faut marcher. Arrivés sur le bord d'une route inconnue, nous faisons la pause, heureux de prendre un peu de repos car nous le méritons. Nous sommes fatigués de la marche, mais le soleil est de la partie. Après 2 heures de pause, nous sommes étourdis par le canon, sac au dos, et nous voilà en route. Nous marchons péniblement en avant du village de Coincourt dans les champs fraîchement moissonnés. Nous demandons les uns les autres quand nous serons face à face avec nos ennemis. Le vacarme se faisait de plus en plus violent. Bientôt, nous fûmes apportés des obus. Nous marchons toujours, si bien que les obus français sifflaient au-dessus de nos têtes, se croisant avec ceux des Boches. Malgré le formidable duel, nous traversons le village de Coincourt. Seul notre 75 était de la partie, tandis que nous, pauvres fantassins, nous faisions connaissance des shrapnels des 77 allemands. Nous nous abritons un moment dans un verger, derrière le cimetière du village, mais bientôt repérés par les batteries ennemies, les obus commencèrent à tomber autour de nous. Mieux valut quitter cette position peu sûre. Nous arrivons face à une grande forêt où nous avons aperçu quelques Uhlans. Voici l'ennemi. La fusillade commence, les balles sifflent autour de nous. Nous ripostons, à notre tour, mais hélas sans voir. Nous avançons encore, mais hélas combien de pauvres camarades ne font pas 2 pas et tombent aussitôt pour ne plus se relever. On s'aplatit à peu de distance. Nous sommes trop près de l'ennemi. Les balles rasent le dos, touchent de tous côtés de nouvelles victimes. Saisis d'horreur et de peur, nous restons cloués sur place. Nous avons enfin compris. Les Allemands, bien abrités derrière des tranchées, nous fusillent à bout portant, tandis que nos balles vont se perdre sans leur causer de mal. Par malheur, nous sommes disposés en ligne perpendiculaire par rapport aux tranchées ennemies, de sorte que nous étions pris en enfilade. Enfin, le soleil s'est couché. La nuit commence à descendre. Nous nous replions un peu à l'arrière. Tout semble redevenir calme. Mais le calme est encore plus terrible que le vacarme de tout à l'heure, car on entend maintenant les appels des blessés. Le râle des mourants. Malgré tout, nous sommes obligés de rester sur place. Enfin, vers les 11 heures, l'ordre arrive de partir. On s'achemine tous, harassés de fatigue, vers le village où nous passons la nuit. Dans La mort de près, Maurice Genevoix écrit ceci. Ce cri rauque, étranglé, qui m'est resté dans les oreilles, qui l'a poussé? Est-ce lui, ce premier mort dépassé? Je viens d'en percevoir un autre, un troisième. J'ai entendu aussi, très nettement, à ne pouvoir m'y tromper, le choc des balles qui entraient dans les corps, bref, étouffés, comme d'une lame de couteau assénée par un poing furieux. Désormais, je sais que le feu tue. Et puis, c'est le début de la bataille de la Marne. Charles Péguy est tué à Villeroy. Alain, le philosophe, écrira dans « Mars ou la guerre jugée » À la bataille de la Marne, on bouchait les trous avec l'artillerie. J'ai entendu le récit d'un lieutenant qui a eu les deux jambes un peu déchiquetées à ce métier-là. Son fou de commandant avait naturellement établi la batterie sur une crête, en pleine vue. C'est ainsi qu'ils faisaient tous. Et après cela, l'intrépide commandant était allé s'enterrer dans un bon trou, à 200 mètres derrière, et de là, par téléphone, il soutenait le courage des combattants. Ce soutien moral était bien nécessaire, car l'artillerie ennemie tirait sur eux comme sur une cible. Quand le lieutenant eut perdu la moitié de sa troupe, il demanda à son chef la permission de reculer un peu, de façon à s'établir en contrepente et hors des vues, on n'en tirerait que mieux. Mais le trou répondit qu'il fallait s'en tenir au fameux ordre de Joffre qui prescrivait de se faire tuer sur place. Très bien. Ils se firent tuer sur place. Niés enfin, à force de tirer au nez des fantassins ennemis, ils les arrêtèrent. Ce n'était qu'un exemple de la stupidité du commandement. Il y en a des milliers. Qu'est-ce que peut dire un trou ? Qu'est-ce que peut penser un trou ? Alfred écrit, 6 septembre. Arrivé à Ondelincourt, où nous prenons le train pour l'inconnu. Arrivé le même jour à Longeville, où nous cantonnons. 7 septembre, départ à 4 heures matin. Passons à Bar-le-Duc, où nous trouvons toute la population en émoi. Arrivons à Beubel, à 21 heures. Début de la bataille de la Marne. 8 septembre, départ à 2 heures matin. Traversons Argeville, où tous les paysans étaient déjà partis. Allons à Gélicourt. 9 septembre, soutien d'artillerie, passons toute la journée d'un champ à l'autre, recevons marmite, soir, allons cantonner à Loupis le Petit. 10 septembre, rejoignons les autres compagnies pour défendre le plateau de Vassincourt où nous avons passé la nuit sous la pluie. Face, le village de l'île en Barrois. Dès l'aube, nous sommes entourés par les Boches et étions pris entre deux feux. Malgré notre fusillade, la situation est très mauvaise. Le capitaine donne l'ordre de se replier pendant cette terrible opération. En descendant sur la grande route, je reçois dans le genou droit une balle. Me voilà obligé de me coucher et de laisser partir mes camarades. L'ennemi avance toujours. Ne voulant pas tomber entre leurs mains, je pris mon fusil et appuyé sur la crosse, je me sauve en suivant le ruisseau. De temps à autre, je suis obligé de me reposer. Après une heure de marche à travers les balles de mitrailleuse, je ne puis pousser plus avant et je me vois obligé de me laisser aller. Mais voilà que je vois avancer deux poilus qui étaient d'un régiment dont je ne connaissais pas le numéro. Ils me prirent par le bras et me mirent à l'abri, dans un chemin creux, où des brancardiers me prirent et me portèrent à Condé. Je ne reste pas longtemps. Les obus pleuvaient sur le village. Tout le monde partait. Mes quatre brancardiers me prennent et nous partons. Arrivé sur la grande route, je monte dans une voiture d'ambulance qui me porte à un poste de secours le plus proche. Là non plus, je ne fis pas longue pause. Et nous partons peu après, montés sur une charrette de paysans. Cette charrette me laissa dans un autre poste d'où je partis en auto. Traversons Bar-le-Duc et on nous conduit à la gare pour partir. Nous voilà dans le train, partant pour l'arrière. Le 1er octobre, Jules Dupin, poète, que la guerre prendra aussi, écrit dans son journal. Ah, combien de morts j'ai enterrés moi-même, que de blessures atroces j'ai vues, que de râles j'ai entendus aussi bien allemands que français. Que de croix j'ai faites pour mes camarades et pour mes ennemis. Dans un petit bois, j'ai vu 15 chasseurs, tous tués, à la tête, dans la position de défense. C'était horrible. Ce que j'ai vu, c'était innommable. La guerre, la guerre. Aurais-je jamais cru que c'était cela ? Et pendant ce temps-là, le 3 octobre, Joffre, devant une assemblée de polytechniciens, clame : une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Carnet d'Alfred, 20 octobre, je suis renvoyé dans mon dépôt. 21 octobre, arrive à Marseille où je finis de me remettre. 1er novembre, encore au dépôt. 4 novembre, départ de Marseille, avec le détachement pour rejoindre le régiment au front. Et dans ses carnets de guerre, Louis Bartas, tonnelier dans l'Aude, écrit « Notre départ de Narbonne était fixé pour le mercredi 4 novembre. Je faisais partie d'un détachement d'une cinquantaine d'hommes allant renforcer le 281e régiment d'infanterie. J'embrasse ce que j'aime une dernière fois, je les presse sur mon cœur et j'ordonne à mon épouse de disparaître, de ne pas chercher à me revoir à la gare. Cela m'ôterait, lui dis-je, le peu de courage qui me reste. Il fallait réagir. On ne pouvait pas traverser la ville les yeux pleins de larmes comme des femmelettes. On fit donc tous assez bonne contenance. Manival, nous fit escorter par quelques clairons et tambours dont le tapage attira une grande foule sur notre passage. Oh, ce n'était plus la foule enthousiaste et en délire assistant au premier départ. Nous sommes déjà sur l'année 1915. On sait à présent que la guerre va durer. Voici le témoignage de Géo Michel, alias Michel-Georges Michel, pseudonyme de Georges Dreyfus, peintre, journaliste et romancier, qui décrit la vie dans les tranchées, avec ce cycle de 3 ou 4 jours que l'on retrouve, entre autres, dans les carnets d'Alfred. Quelques coups frappés violemment, l'homme de liaison lance vivement à travers la grange, la cave, le local abandonné, où sur un lit de paille usagé dorment les hommes, ordre des départs, dans une heure. Bâillement, étirement, jurons, lazy. Tout le monde, bientôt debout, rajuste en hâte l'équipement éparse dans la paille, les souliers rattachés, les couvertures roulées, le sac bouclé. La section se forme dans la cour étroite et boueuse. Des balles perdues passent au-dessus de nos têtes. La colonne se remet en route, mais il faut secouer quelques dormeurs. Un cri de douleur devant nous, agitation, rassemblement, un blessé. On le porte derrière une meule. Un ordre porté de bouche, faites passer, un blessé, le médecin. En arrivant devant le rassemblement, interrogation brève, qui est-ce grave? De l'eau jusqu'à mi-cuisse, enfonçant dans la vase piétinée. C'est seulement avec l'aide du voisin qu'on parvient à se hisser sur la berge gluante de l'autre rive. À partir de cet instant, tous sont trempés pour tout le temps que durera le séjour aux tranchées. Dans un de ces trous, l'homme que vous suivez vient de disparaître. Vous y tombez plutôt que vous n'y descendez à votre tour. Oh, le froid de l'eau qui pénètre dans les chaussures s'infiltre dans la laine malgré graisse et bandages. Nous entrons dans d'anciens boyaux creusés par les Allemands qui servent pour certaines sections de tranchées de réserve. Nous enjambons des malheureux qui, les uns dormant, les autres grelottant depuis 2 jours, marinent dans la flotte. Entrés dans un nouveau boyau, après une série de zigzags glapotant toujours dans l'eau, nous arrivons enfin. Le guide dit « C'est là, il faut sortir du boyau ». Et sur le terrain découvert, des fantassins à plat ventre semblent dormir sur leurs fusils. Après un bond en avant, ils ont été cloués sur place par un feu violent et ceux qui n'étaient pas touchés se sont creusés un trou individuel, abri précaire, qu'ils quittent vivement pendant que nous prenons leur place, sous les balles tirées au petit bonheur dans le noir. On passe le reste de la nuit à creuser chacun son trou avec ardeur, puis à le réunir à celui du voisin pour former une tranchée. Puis le petit jour se lève, soulevant le mystère du paysage inconnu qui nous entoure. Devant nous, la première tranchée allemande à 150 ou 200 mètres. Derrière elle, les bois où l'ennemi s'est fortifié. Entre les deux, corps étendus, couleur de terre. Ceux qui sont tombés dans les attaques ou les contre-attaques récentes et qu'on n'a pu relever ni d'un côté ni de l'autre. Sous la terre rejetée dans notre talus, une jambe bottée émerge. Derrière nous, encore, des morts qui paraissent seulement des hommes endormis. Le grand jour venu, il devient dangereux de continuer à travailler. Nous voici condamnés à l'inaction jusqu'à la nuit. Le deuxième jour se lève, sombre et gris. Insensible aux canons, à la fusillade, au crépitement des mitrailleuses qui effritent le parapet, aux éclats qui tombent tout autour, on se résigne également, assis sur la banquette debout, claquant des dents gelées, à recevoir stoïquement la pluie, la neige qui commence à tomber. Il pourrait bien tomber n'importe quoi. Rien ne surprendrait plus ces soldats que vous voyez encapuchonnés sur leurs pauvres oripeaux, toiles de tente, couvertures, pèlerines, capuchons, sacs de couchage, toiles cirées, caoutchouc, s'abritant comme ils peuvent. La troisième nuit se passe comme le troisième jour. Mais c'est quand même avec un véritable sentiment de délivrance que l'on voit arriver, au milieu de la quatrième, la section qui vient relever. En portant un poids plus lourd de boue et d'eau que de vêtements sur son dos, pesant le double qu'au départ. C'est le cheminement interminable de l'allée qu'on recommence dans le clapotement de l'eau par les boyers zigzagants et quelques jours de repos au cantonnement, on les passera surtout au nettoyage. Quelques-uns manquent à l'appel et les rangs s'éclaircissent encore des malades, pieds gelés ou pourris, qu'il faut évacuer. L'on ne s'est pas battu en somme, mais le froid, la nuit, la boue surtout, voilà le cauchemar du troupier qui s'évanouit avec les beaux jours et qu'il ne reverra pas une deuxième fois, espérons-le. Un clin d'œil à nos amis peintres. 14 août 1915 est créée la première unité de camouflage placée sous la responsabilité de Guirand et relevant directement du quartier général. Les principes du camouflage sont directement inspirés des réflexions des cubistes sur la décomposition des formes et des couleurs. Il s'agit de peindre des aplats de couleurs proches de celles du paysage dont le résultat est de déformer la pièce en l'intégrant dans l'environnement. Très vite, les camoufleurs vont étendre leur domaine. Ils créent des observatoires dissimulés dans de faux arbres, de faux murs ou de fausses meules de foin. Ils créent aussi des leurres, faux canons, faux soldats. Fernand Léger, d'ailleurs, fera tout pour entrer dans cette unité, mais ne sera jamais retenu. Dans les lettres du front, Franz Marc, peintre allemand, dit ceci. Je me trouvais dans un gigantesque fenil, un bel atelier, et j'ai peint 9 Kandinsky sur des toiles de tente. Cette histoire a un but tout à fait utile, rendre introuvable l'emplacement des pièces d'artillerie pour les avions de reconnaissance et les photographies aériennes en les recouvrant de ces toiles peintes selon un système pointilliste grossier et d'après les observations faites sur les couleurs naturelles de camouflage. Grâce à la peinture, l'image qui nous trahit doit être désormais suffisamment brouillée et déformée pour que la position ne soit pas reconnue. La division va nous fournir un avion pour qu'il expérimente la chose en faisant des prises de vue. Je suis curieux de voir quel effet auront les Kandinsky à 2000 mètres d'altitude. Alfred Bénézé, 21 septembre, départ pour Aucourt. 22 septembre, réserve Aucourt, corvée de nuit. 23, réserve, fut nommé brancardier à la compagnie. 24, rentré au poste de secours le même soir, je vais chercher un mort et un blessé en première ligne. Extrait du livre Le feu d'Henri Barbusse. Je m'arrête, dit celui de l'avant, je suis trop fatigué. Allons, avance, nom de Dieu, fait l'autre d'un ton bourru en pataugeant pesamment, les bras tirés par le brancard. On va pas rester à moisir ici. Il pose le brancard à terre sur le parapet, l'extrémité surplombant la tranchée. On voit en passant par-dessous les pieds de l'homme étendus, et la pluie qui tombe sur le brancard en tombe noircie. C'est un blessé, demande-t-on d'en bas. Non, un macabre, grogne cette fois le brancardier. Et il pèse au moins 80 kilos. Des blessés, je dis pas, depuis 2 jours et 2 nuits, on n'en déporte pas, mais c'est malheureux de s'esquinter un trimballé des morts. Alfred, le 26, porte blessé. Le feu, Henri Barbusse. Viens t'asseoir ici, me dit un des hommes du banc, me faisant une place. T'es blessé? Non, j'ai conduit ici un blessé et je vais repartir. T'es pire que blessé, alors. Viens t'asseoir. 24 novembre. Carte postale d'Alfred Bénézé. Je réponds à la lettre de papa du 20 que je viens de recevoir. Merci de tous les renseignements que tu me donnes. Moi, je n'ai rien à dire si ce n'est que l'on vient de me payer le fameux prix de 25 centimes. J'ai donc touché 10 francs 70. Une fortune pour les poilus du front. Après ça, je n'ai rien de nouveau. Bien des choses à tous, ton fils dévoué. 26 septembre, Alfred dans son carnet. Poste à Aucourt. À 19h, nous avons senti les gaz asphyxiants qui étaient lancés entre le bois de Forge et Bétincourt. Minuit, relève. Journal L'Illustration. La guerre. 69e semaine de guerre. Une tentative avortée des Allemands en Argonne orientale effectuée à l'aide de gaz suffocants entre Forge et Bétincourt, au nord-ouest de Verdun. Carnet d'Alfred, le 27. Repos, Esne. Suis malade du gosier et des dents. Le 29. Suis évacué sur Monzeville. 30. À 8h, je pars pour Dombasle. 1er décembre, couché à l'ambulance 14, où je suis soigné. Le 12 décembre, rejoins mon régiment. 1916. 23 juin 1916. Passons aux réserves à Bicon. 24. Réserve Bicon, garde Nieuport. 25 juin. Journal des instituteurs. L'obus de 75 à Shrapnel contient 300 balles de plomb, pesant chacune 12 grammes. Quel est le nombre de balles et le poids de plomb par mètre carré que peut faire pleuvoir en une minute une batterie de 4 pièces tirant chacune 20 obus par minute? Cette batterie battant un espace large de 100 mètres et profond de 200 mètres. Carnet d'Alfred. Le 29, somme relevée par le 1er, 30 juin, Canring, 1er juillet, Canring. 1er juillet, la bataille de la Somme. Des dizaines de milliers de Britanniques lourdement armés avancent dans le No Man's Land. En une journée, l'infanterie britannique enregistre 57 470 victimes. 1916, c'est aussi un texte distribué clandestinement par Alain, manifeste au peuple allemand. Ce que tant de gens pensent chez nous, qui n'écrivent point, qui ne parlent point, il faut pourtant que vous le sachiez, car nos journaux vous trompent. Il y a eu là, depuis bien des années, un malentendu énorme. D'un côté, nous avons cru, d'après les papiers publiés en Allemagne, qu'il s'agissait pour votre nation de saisir par la force nos plus riches provinces et de les garder. De l'autre, vous avez cru, on le voit bien clairement aujourd'hui, qu'il s'agissait pour nous et nos alliés de diminuer l'Allemagne politiquement, militairement, économiquement. D'un côté et de l'autre, de la frontière, la presse officielle ne se gênait pas pour entretenir cette double erreur. Elle continue à l'entretenir. Et voici que nous apercevons désormais. Nous découvrons que chez vous, dans le peuple, dans la bourgeoisie, parmi tous ceux qui ont payé le plus cher, vous avez cru faire une guerre défensive. Vous l'avez cru à tort ou à raison. Ne discutons pas là-dessus. Les erreurs de jugement n'importent pas puisqu'il s'agit de sentiments de bonne foi. Et nous vous certifions que chez nous, l'immense masse des paysans, des artisans, de tous ceux qui ont payé le plus cher aussi, ont fait la guerre sans haine, croyant résister à une agression préméditée et injuste. Une tyrannie insupportable empêche chez nous et sans doute aussi chez vous de dire ces choses. Elle n'empêche pas de les penser. Nous sommes mutilés, comme vous, par tous ces massacres. Nous sommes ruinés, comme vous, par toutes ces folles dépenses, ni plus ni moins. Chez nous, comme chez vous, ni plus ni moins, les plus valeureux, les meilleurs, impitoyablement, par leur vertu même, sont morts. Que personne ne soit humilié ni méprisé. Que la paix ne soit pas le fruit de la lassitude, du découragement, de la peur. C'est tout ce qu'il faut. De toute façon, pour l'avenir, pour la justice, pour le droit, il faut une paix noble. Que les peuples se le disent à travers les frontières. 7 novembre 1916. Une correspondance de guerre de Fernand Léger. Mon cher vieux, nous savons ce qu'est un nettoyeur de tranchées. Aussi, je me suis mis à le regarder attentivement. Une gueule de paysan, pleine de barbe noire, un type du centre, robuste, avec un air placide. Il n'avait pas demandé à faire ce truc-là. On l'avait désigné. Il me disait ceci. Je pars avec les vagues d'assaut, et à la première tranchée allemande, je m'arrête et avec les copains, on fait le boulot. C'était justement ce boulot qui m'intéressait. Je savais le droit de vie et de mort qu'ont ces quelques hommes sur les blessés et les vivants restés dans les lignes. Aussi, je voulais savoir ce qu'il faisait, lui. Alors il m'a dit « Ah ben, ça dépend pas de moi tout seul, ça dépend aussi des copains. Sûrement c'est emmerdant de les emmener, parce qu'on se fait bousiller en route. » J'ai compris que lui préférait les tuer, parce qu'il devait y avoir discussion avec les copains. Tu te représentes, ce tribunal sinistre et sans recours, où ces quelques hommes décident de la vie des autres, qui sont devant eux, à genoux, leur offrant leur argent, tout ce qu'ils ont, pour ne pas être achevés. Pense à ces Allemands qui comprennent le français et qui subissent la discussion et le calcul de ce paysan, qui entendent tout et qui attendent le jugement. J'avance jusqu'au 17 mai 1917. Alfred écrit dans son carnet. 17 mai, relève. 18, réserve. 23 mai, nous remontons le soir en ligne. Le 24, sommes en ligne, en place du 1er bataillon qui, ayant eu de grosses pertes quelques jours avant, reste au repos. C'est en 1917 également que Paul Éluard publie Le Devoir et l'Inquiétude. Extrait d'un poème, Notre mort. Je connais tous les chants d'oiseaux. Nous avons crié gaiement. Nous allons à la guerre aux gens qui le savaient bien. Et nous la connaissions. Oh, le bruit terrible que mène la guerre parmi le monde et autour de nous. Oh, le bruit terrible de la guerre. Cet obus qui fait la roue. La mitrailleuse, comme une personne qui bégaye, et ce rat que tu assommes d'un coup de fusil. Alfred, 29 mai, relève, le 30, réserve, 31, coup de main chez les Boches par la 9e compagnie après avoir lancé du gaz. Carnet de guerre de Louis Bartas. Notre officier qui avait servi dans l'artillerie estimait que chaque coup de main coûtait en obus de 300 000 à 500 000 francs. Et pour quel résultat ? Faire un ou deux prisonniers ? Écrabouiller une sentinelle ? Quel gaspillage ! Mais est-ce que l'argent comptait pour nos dirigeants, pour nos généraux ? L'Allemagne paiera bien tout cela quelques jours, ou le contribuable français ? Carnet d'Alfred, 1er juin, réserve Bicon. Le 3, avons lancé les gaz et fait un coup de main. Le 5, relevé pour monter ces lignes en ligne à minuit. Les Allemands nous ont lancé du gaz en 3 vagues. Le 6, première ligne. Puis 1918 arrive et se passe tout aussi péniblement. On va de suite vers cette fin de 18, 4 septembre 1918, le 141e Herry, à 4h30, après une bonne préparation d'artillerie, le 1er bataillon parvient d'un seul élan au chemin creux et s'y fortifie. À 16h, l'offensive est reprise, pied à pied. Le terrain est âprement disputé. La progression est difficile et meurtrière. L'affaire a été chaude, 40 tués, 120 blessés. Il reste entre nos mains 117 prisonniers, un canon de 77, 18 mitrailleuses. Carnet d'Alfred, le 4, passé la nuit à la Belle Étoile. Au jour, installé dans les carrières de la ferme. Soir, poste avant. Le 5, poursuite des Allemands qui évacuent les positions et nous nous installons dans le village de Margival. 6 septembre, 141e Herry. Il faut talonner sans trêve l'ennemi. Le 3e bataillon est chargé de mener une attaque brusquée en liaison avec le 3e Herry. Sur ce billard du plateau de la Faux, lacés inextricables de tranchées et de réseaux, nos vagues d'assaut sont fauchées par des rafales de mitrailleuses invisibles dans les hautes herbes. Journée terrible pour le bataillon. En une demi-heure, il avait eu 4 officiers et 90 hommes hors de combat. Carnet d'Alfred. Le 6, installé dans des trous en plein champ face le moulin de la Faux. Attaque, nombreux blessés. Le 7, à 4 heures, installé dans les carrières, près le village allemand, soir, relève. Le 8, réserve dans les abris sur les voies ferrées de Soissons, lent, vie pénible, manger et boire très irrégulier. Malgré notre dévouement, impossible de relever les blessés. Quant aux morts, nous n'y pensons même pas. 9 septembre, 141e Herry. Conquête définitive de la tranchée du Grappin, indispensable comme base de départ pour des opérations ultérieures après des combats locaux à la grenade extrêmement acharnés. Carnet d'Alfred, le 9, relevé par le 165. Pluie, à 10 heures, installé dans une grotte dans le bois de Margival. Le 10, toujours dans la grotte, toujours mauvais temps. 7 novembre 1918. Lettre de Rainer Maria Rilke à Clara Rilke, son épouse. Ces derniers jours, Munich a été un peu moins vide et tranquille que d'ordinaire. Les tensions du moment s'y font aussi sentir, encore qu'elles ne suscitent pas dans les tempéraments bavarois une exaltation particulièrement intellectuelle. Partout, de grands rassemblements dans des brasseries, presque tous les soirs, partout des orateurs, au premier rang desquels le professeur Jaffé. Et quand les salles sont trop petites, des réunions en plein air de milliers de personnes. C'est aussi parmi des milliers de personnes que je me suis trouvé lundi soir dans les salons de l'hôtel Wagner, le professeur d'économie nationale, Max Weber, de Heidelberg, qui passe pour l'une de nos têtes les plus solides et un bon orateur, parler. Et après lui, pour la discussion, Moussam, à l'anarchisme exaspéré, des étudiants, des hommes qui avaient passé 4 ans au front, tous simples, ouverts, vraiment peuple. Il apparaissait important, primordial, que puissent être dites les choses qui sont enfin à l'ordre du jour, et que les plus simples et les plus légitimes d'entre elles, dans la mesure où elles étaient rendues en quelque sorte saisissables, fussent accueillies par l'approbation massive de cette énorme foule. Un jeune ouvrier au teint pâle s'est levé tout à coup et a dit très simplement « Est-ce vous, vous ici ou vous là-bas, vous tous qui avez demandé l'armistice ? C'est nous pourtant qui devrions le faire, nous et pas ces messieurs là-haut. Si nous nous emparions d'une station de radio et que nous parlions, nous les petites gens aux petites gens de l'autre bord, la paix serait signée tout de suite. De tels moments sont miraculeux, et comme ils ont manqué précisément ici, en Allemagne, où ne s'exprimait que la revendication ou la soumission, qui n'est qu'une forme de participation des subordonnés au pouvoir. » Carnet d'Alfred, 7 novembre, vers 20. Départ 5 heures. Dans cette matinée, nous, avec 3 de mes camarades, nous nous sommes perdus, et avons tombé sur une ferme où les Boches venaient de partir et avons trouvé les patrons dans la cave et nous ont reçus comme des dieux. Après nous avoir donné à boire et manger, nous ont mis sur notre route et avons rejoint notre bataillon. Soir, couché à Épinette. 8-9, Épinette, couché à Annie. 11 novembre, signature de l'armistice par les généraux allemands. À 6 heures du matin. À 11 heures, les hostilités sont suspendues. Carnet d'Alfred, 11 novembre. Fausse Quenin, N. Le matin, avons appris avec plaisir la signature de l'armistice. À midi, départ. Arrivé à Landouzy. Je passe sur l'épisode allemand et nous en arrivons aux écrits d'après-guerre. Tout près de nous, Éric Vuillard écrit dans la bataille d'Occident. Il fallait remplir 750 km de trous sur 6 km de large. Il fallait établir un long collier de chair humaine entre deux pays. Il fallait que la frontière soit une frontière infranchissable. Voilà pourquoi on creusait. On laboura sur 750 km et puis on commanda d'immenses rouleaux de barbelés. Alors un feu dans le ciel couronna la terre. La grande place d'Arras fut détruite. La halle d'Ypres fut détruite. La cathédrale de Reims fut détruite. Il y eut 20 millions de morts, 10 millions de soldats. 10 millions. Ça fait de grandes fosses dans la terre. Ça fait des cimetières à perte de vue. D'immenses cimetières très beaux où toutes les tombes sont les mêmes. Il faut 10 millions de morts peut-être pour que toutes les tombes se ressemblent. En 1937, Giono publie Le refus d'obéissance. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y penser et brusquement je la revois. Je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. La terre fait paisiblement du pain. La brume de l'été est sortie des champs de blé et elle bouge tous les horizons. Dans ce lent mouvement qu'elle a pour s'élargir sur tout le pays et pour monter dans le ciel, elle découvre la palpitation de petites poussières brillantes. Ce sont les balles légères des grains prématurément mûris et qui se sont envolées. Le lourd soir d'été apporte ses ombres. Je te reconnais, de Vedeux, qui étais tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Ne t'inquiète pas, je te vois. Ton front est là-bas, sur cette colline, posée sur le feuillage des Yeuses. Ta bouche est dans ce vallon. Ton œil qui ne bouge plus se remplit de poussière dans les sables du torrent. Ton corps crevé, tes mains entortillées dans tes entrailles et quelque part là-bas, sous l'ombre, comme sous la capote que nous avons jetée sur toi, parce que tu étais trop terrible à voir et que nous étions obligés de rester près de toi, car la mitrailleuse égalisait le trou d'obus au ras des crêtes. Je te reconnais, Marois, qui étais tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je te vois comme si tu étais encore vivant, mais ta moustache blonde est maintenant ce champ de blé qu'on appelle le champ de Philippe. Je te reconnais, Jolivet, qui a été tué à côté de moi, devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je ne te vois pas, car ton visage a été d'un seul coup raboté, et j'avais des copeaux de ta chair sur mes mains, mais j'entends de ta bouche humaine ce gémissement qui se gonfle et puis sauter. Je te reconnais, Vercamp, qui a été tué à côté de moi, devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Tu es tombé d'un seul coup sur le ventre. J'étais couché derrière toi. La fumée te cachait. Je voyais ton dos comme une montagne. Je vous reconnais tous, et je vous revois, et je vous entends. Vous êtes là dans la brume qui s'avance, vous êtes dans ma terre, vous avez pris possession du vaste monde, vous m'entourez, vous me parlez, et vous avez gagné. Car vos visages sont dans toutes les brumes, vos voix dans toutes les saisons, vos gémissements dans toutes les nuits, vos corps gonflent comme le corps des monstres gonfle la mer. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas pardonner. Votre présence farouche nous défend la pitié, même pour nos amis, s'ils oublient. Je ne sais pas pour vous, j'ai besoin d'un peu de respiration. Je tente un peu de respiration pour revenir un peu au calme. Me souvenir, la semaine passée, la grâce, 26 octobre 2014. Les écrivains invités évoquent entre autres l'humour, l'humour noir, la dérision pour entrer dans des territoires où il peut être difficile de pénétrer. Pardonnez-moi, j'ai pas dû vous faire rire beaucoup en ce début d'après-midi, et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, si vous n'avez pas été là le 26 octobre, mais ça y est, je suis un héros. J'ai sauvé Agnès de Sarthe. Elle avait perdu, oublié ou cassé, je ne sais plus, ses lunettes. Elle demande des lunettes loupes. Je lui passe les miennes, et elle nous lit une de ses nouvelles où Léna, un de ses personnages, se surprend à engager la conversation avec un faisan. Je cite. « Vous craignez l'orage, mais vous craignez encore davantage de vous faire aborder par un poulet. Oui, bon, d'accord, un poulet amélioré, mais tout de même. » Il se met à rire, sensuel, désinvolte. « Je suis un poilu, » reprend-il, subitement plus sérieux. « Un poilu, » s'étonne Léna, enroué, reconnaissant à peine sa propre voix. « Un poilu mort. »« Mort ? Oui, c'est ça. Et réincarné en faisant. Je suis un poilu mort à la guerre de 14, précise-t-il. Pour la première fois depuis leur rencontre, Léna ose de visager franchement l'animal. Qu'est-ce que vous faites là, dit-elle. Je vous apparais, répond le faisant, d'un ton pas tout à fait assez modeste. Pourquoi? Pour mon apaisement personnel, confie-t-il. Voyez-vous, je suis, comme on dit, une âme en peine. Impossible de trouver le repos. Alors gère, et de temps en temps j'apparais. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver le repos? Demande Léna. Le remords, je m'en veux, je suis mort si bêtement. J'ai fait de ma fiancée une veuve alors qu'elle n'était même pas mariée. J'ai gâché sa vie, elle l'a passée à me pleurer. C'était une jeune fille, si naïve, si tendre. Elle voulait toujours que je lui morde l'oreille et elle était comme un chiot. Pourquoi dites-vous que vous êtes mort bêtement? Mort au champ d'honneur, c'est quand même quelque chose. Oh, vous êtes mignonne, mais je vous assure que c'était idiot. J'ai très bien vu l'éclat d'obus qui arrivait sur moi. Il aurait suffi que je me baisse de quelques centimètres. Je n'aurais pas eu la tête tranchée. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, un éclat d'obus. Ça alors, comme il a l'air coupant. Enfin, vous voyez ce genre de sornette que se racontent les gens distraits. Je vois très bien, oui. Mais comment savez-vous qu'elle ne s'est jamais remise, votre fiancée? Parce qu'on voit tout de là-haut. Je dis là-haut par commodité. Mais en fait, une fois mort, on ne connaît plus haut ni bas. C'est la fin du monde physique. Vous voulez dire que les morts voient tout? S'écrie Léna en l'interrompant. Oui, tout. Mais c'est horrible. Je ne vais plus rien oser faire. On voit tout, mais on regarde très peu. C'est fou comme c'est ennuyeux. Vous dites ça pour me rassurer. Pas du tout. Le mensonge, vous savez, c'est comme le haut et le bas, l'avant et l'après. Une fois qu'on est mort, ça n'existe plus. La Grâce, 1er novembre 2014. Ronan Barrot, me reprochant parfois de n'apporter que les écrits des autres, permettez-moi, pour finir, de vous livrer un peu de mon écriture. Voici. Combien d'amis mourir seront dernier hommage à mes côtés? Pas eu le temps de se le dire que déjà mort il fut, parti comme il se doit d'une pointe de pied. Seul grand fracas, le bruit de ceux restés à se demander pourquoi ce sans bruit avait silence choisi, eux-mêmes s'apercevant soudain qu'ils ne pouvaient autrement en être. Combien d'inachevés amours a-t-il laissé dans le désordre de vie plusieurs, de vie surprise, elles aussi, par l'heure qui tombe si tôt? Pas même le gris du soir sur ses cheveux déposés d'un reflet, pas même la ride du bout des yeux, nul le temps aride aussi, d'inscrire dans le sillon creusé le souvenir d'une larme de sel. Combien de morts lui-même a-t-il compté, dans la souffrance de ceux qui comptent ceux qui restent, qui comptent jamais assez de doigts pour tout compter, autant ceux-ci que ceux qui partent, et ceux qui ne savent plus s'ils sont ou ne sont plus, ne savent plus doit de la main tenir, comme les amis liés se disent. Combien de mers traversées a-t-il avant ce voyage dernier? Pourquoi voyage d'ailleurs, dit-on, quand s'agit trois pieds sous terre d'aller? Sans retour ni d'âme ou quoi, d'espoir démesuré, d'éternité, que la terre toujours d'ensevelir se charge. Poignée d'adieu jetée en pluie, fait jamais beau quand de partir s'agit. S'agitent les mouchoirs, tu sais, les trains aussi. Combien d'ordinaire la vie se doit à ce décompte d'heure, qui sur son horloge jamais n'a exacte l'heure. Sonnent les coups qui pleuvent, tu sais, la pluie, la vie, la mort et la tristesse. Tous ces temps que le corps affronte, sans savoir jamais si le verbe ou le silence suffiront. Combien de mots d'ailleurs pour le décompte finir? Si peu, ami, si peu. Sommes là silencieux, ni derrière, ni avec, juste à côté. La Grâce, 1er novembre 2014. Vous avez le bonjour d'Alfred. Merci.